Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut Rokaya.
Salut Grace.
Salut les auditorices.
Vous trouverez la suite de Kif Taras et les nouveaux épisodes à écouter sur votre plateforme habituelle de podcast.
Faites simplement une nouvelle recherche avec le titre Kif Taras chez Pseudo Radio et abonnez-vous à ce fil.
Bien sûr, les quatre premières saisons des épisodes de Kif Taras resteront toujours disponibles chez Binge Audio.
Merci pour votre écoute précieuse
et à bientôt.
Binge Audio présente...
Bonjour Rokaya.
Bonjour Grace.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kif Taras, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales.
Ici, on parle d'arabes, d'asiatiques, de blancs, de roms, de noirs, de musulmans, mais aussi de juifs, ça arrive, tout ça sans complexe.
Aujourd'hui dans Kif Taras, nous allons parler de judéité et d'antisémitisme, une maladie honteuse de la société française. Ce sont les mots de Chloé Corman qu'elle a écrit dans son livre « Tu ressembles à une juive » aux éditions Seuil. Selon les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur, les faits antisémites ont augmenté de 27% en 2019, portant leur nombre à 687. Il s'agit de violences ou insultes sur les personnes, des dégradations de lieux de culte, des profanations de cimetières. Des médias en ont déduit une recrudescence de l'antisémitisme, les imputant souvent aussi à un seul groupe de la population française, les musulmans. Ce sont des conceptions à fonder. L'antisémitisme n'est pas le fait d'un seul groupe de la population dans notre pays. L'État français a reconnu sa responsabilité pour les déportations des Juifs pendant le génocide et nos espaces publics sont loin d'être imperméables aux discours inspirés de l'extrême droite, voire des sympathies avec des thèses négationnistes. La multiplicité des identités juives françaises, l'antisémitisme d'État et l'histoire de Drancy, être à la fois antiraciste et lutter contre l'antisémitisme, c'est le sujet de notre Kif Taras du jour.
Et pour nous accompagner, nous avons le grand plaisir de recevoir Chloé Corman. Salut Chloé.
Bonjour Okaya, bonjour Grace.
Bonjour Chloé.
Alors Chloé, tu as plusieurs casquettes, tu es enseignante, écrivaine et notamment autrice de l'essai « Tu ressembles à une juive » qui est paru l'an dernier aux éditions du Seuil.
Oui, en janvier dernier.
Alors dans Kif Taras, pour commencer la conversation, on a un petit rituel dans lequel on demande à la personne qu'on invite de se situer sur le plan racial, si elle se situe. Déjà, et si oui, comment, afin qu'on saute mieux ensemble dans ces questions. Est-ce que toi, Chloé, tu te situes, et si oui, comment?
Merci. Alors, heureusement, j'avais écouté quelques épisodes pour me préparer psychologiquement à cette question.
C'est un torse à l'universalisme français.
Voilà. Et venant parler de ce livre, je ne peux pas vous répondre autrement que avec ma judéité, qui est, je pense, une espèce d'étrange blancheur. Un sentiment, en fait, globalement, de ne pas avoir à y penser, à ma racialité. Ou, au contraire, une visibilité hypertrophiée hein, par rapport à l'actualité, par rapport à une espèce de convocation identitaire, par rapport au judaïsme, par rapport à des questions d'actualité très violentes, dans lesquelles, régulièrement, je me sens comme happée. Sans que ce soit un étendard ni une réalité identitaire très, très vécue. Parce que, au fond, cette judéité, je cherchais à la définir, elle n'est pas du tout uniforme. Alors, déjà, faudrait retracer. Je dis judéité, pas judaïsme, parce que je viens d'une famille extrêmement peu pratiquante, pas du tout. Donc, c'est pas la religiosité qui prime, à part des petites teintures culturelles dont on pourra peut-être parler. Je viens d'une famille ashkenaze, c'est-à-dire donc pas d'Afrique du Nord, mais d'Europe de l'Est. Une fois que j'ai dit ça, je n'ai dit qu'une réalité approchante. Du côté de la famille de ma mère et du côté de la famille de mon père, ça n'est pas du tout la même chose. Ma mère, c'est des Alsaciens, des Juifs alsaciens, c'est-à-dire des gens qui sont depuis des générations en Alsace et une judaïté qui est extrêmement, extrêmement sécularisée, extrêmement laïcisée et ancienne et discrète. Et comme mes grands-parents, ils se sont, des fois je dis qu'ils se sont réveillés juifs en 42, quoi.
Et c'est une on les a réveillés juifs.
Voilà, ouais. ouais. Avec besoin de... J'ai un grand-père qui a changé de nom par rapport, suite à ce traumatisme. Et du côté de mon père, c'est une réalité encore tout autre qui me rapproche de mes thèmes en tant qu'enseignante, en tant qu'en Seine-Saint-Denis. Ce sont des immigrés polonais. Donc c'est vraiment une expérience de l'immigration, une expérience de vivre avec des langues étrangères, de vivre dans une certaine marge de la société française pour mon père, avoir vraiment le sentiment que... on vient d'arriver, le père de mon père était apatride, ça a été compliqué, enfin c'était sujet de complications d'obtenir la nationalité française. J'avais une grand-mère, donc de seule survivante de mes grands-parents de ce côté-là, qui parlait mal le français. Donc c'est encore une toute autre expérience de la judaïté, c'est des gens plus religieux aussi, hein, mais ça c'est aussi plus commun hein, chez des gens qui viennent d'immigrer. Voilà, donc c'est un judaïsme sans religiosité, en même temps avec des signes, le rattachement à une diaspora, quand même, des cousins en Israël, des cousins aux États-Unis. Donc c'est quand même ça, ça fait partie d'une expérience de la judaïté. Mais après, il y a beaucoup d'autres appartenances, finalement, si je cherche à me définir d'un point de vue du rapport à l'étranger. Alors, il y a l'ancrage en Alsace, les deux, que ce soit les immigrés que les Alsaciens. Il y a un attachement très fort au monde germanique et la présence de l'allemand et des gens de la famille dans tous les pays qui ont des étranges variations sur l'allemand, au nord, en Belgique, Luxembourg. Donc il y a ça. Et puis après, il y a le territoire, moi, de mon imagination, de ce qui m'a formée comme romancière. Comme une espèce d'ailleurs qui m'a ancrée, vraiment. Parce que, en plus, c'est aux États-Unis que j'ai commencé à écrire mon premier roman. Mais donc, un ancrage très, très fort dans l'anglais, dans la traduction de l'anglais et l'étude de la littérature américaine, qui a été une espèce de pas de côté, je pense, qui va avec le goût que j'ai de pas forcément être un endroit qu'on m'a défini. Quoi.
Alors, on vient de commencer cet entretien et déjà, je trouve qu'on a beaucoup, on a déjà le goût de la complexité, de la nuance qu'on va avoir tout au long de cet épisode et aussi qu'on te retrouve dans ton livre, fortement. Et je trouve que c'est l'un des fils rouges que tu tires et que je trouve très intéressant parce que justement, on n'a pas beaucoup de nuances quand on parle de judaïté en France. Donc, tu as parlé d'un peu de blancheur et en même temps, dans ton livre, tu dis « J'ai toujours eu conscience d'avoir une culture légèrement différente de la culture dominante. » Donc, ça se retrouve dans ce que tu dis, c'est-à-dire que tu peux passer pour blanche.
Ouais.
Mais est-ce que tu te vis comme blanche? Enfin, c'est ça la question. C'est est-ce que entre ce qu'on voit, est-ce que la manière dont tu te vis, ou est-ce que c'est une interrogation qui est venue de l'extérieur?
Dans le fait de ne pas être discriminée la plupart du temps, même de ne pas avoir l'expérience de la discrimination, en fait. En cela, j'ai une expérience personnelle qui est absolument une expérience blanche. Celle d'être une femme, mais ça, c'est un autre angle. Mais en cela, dans cette non-expérience absolue de la discrimination, je me vis comme blanche, oui.
Et donc, ton livre s'appelle « Tu ressembles à une juive ». Et donc ça, c'est une phrase que te disait ta grand-mère, Denise. Elle te disait...
Noté le prénom.
Oui, j'ai noté le prénom. J'ai même noté qu'elle était née Meyer, Wildenstein, puis Villard.
Ouais,
donc, tu vois, pour te dire,
absolument.
Je suis dans le détail, là. Elle ne supportait pas que tes cheveux bouclés restent lâchés. Quand tu étais adolescente, et alors comment tu analyses ça et qu'est-ce que tu as ressenti à entendre cette phrase ?
Mais sur le coup, j'ai réagi très vivement et c'est le genre de phrase qui traverse le temps, qui s'ancre et qu'on finit par comprendre des années après. Donc l'anecdote que tu rapportes, c'est aussi une expérience d'adolescente à rapporter, qu'on peut tout à fait rapporter à l'actualité, c'est-à-dire sur le contrôle. Récemment, on a eu le mouvement du 14 septembre avec les filles qui veulent plus qu'on les contrôle sur la façon de s'habiller pour aller au lycée. Mais moi, c'était comme ça à la maison. C'est-à-dire qu'il y avait des longueurs de jupe et une certaine forme de correction vestimentaire qui était très présente. Et il y avait aussi une police des cheveux.
La police des cheveux,
ça me rappelle des choses.
Et alors ça vient, donc Denise, tu as dit tous ces noms de famille, mais il faut dire aussi que Denise, elle est blonde, Elle est, donc c'est la partie alsacienne de la famille. Elle a des yeux bleus. Et elle a aussi été une enfant cachée. Hein, c'est-à-dire qu'elle a survécu à la guerre parce qu'à un moment, ses parents se sont... ont laissé elle et sa sœur dans une ferme dans le centre de la France pendant des très longs mois pour qu'elle survive. Donc, c'est quand même une expérience traumatisante et je pense qu'elle, ensuite, qu'elle traverse en étant correcte sous toutes les coutures dans la suite de sa vie. Et une impression d'être discrète et bon, bah, de ne pas avoir à se faire remarquer. Et donc, elle supportait pas que je sorte avec les cheveux pas attachés. Donc, bon, voilà, moi, je suis brune, j'ai les cheveux bouclés. Et elle voulait soit que je les coupe, soit que je les attache. Mais en tout cas, pas que je me fasse remarquer. Donc, un jour, elle m'a balancée, mais j'ai fait ce que j'avais en tête. Mais elle m'a dit, si tu sors comme ça, tu ressembles à une juive. Ce qui est incroyable comme phrase, parce que tout le monde est juif dans ma famille. Donc qu'est-ce que c'est que cette histoire
de... Ouais, pour une personne qui a vécu la clandestinité, ressembler à un juif ou à une juive, c'est dangereux.
Oui, c'est ça. Mm. C'est aussi la même famille où le nom de famille était changé par mon grand-père de Wildenstein à Villars. Et donc si ça, c'est pas le signe quand même d'un traumatisme. En plus, quand ce choix intervient dans les années 50, hein, même un peu plus tard... Donc voilà, c'était associé à une certaine dureté, à un geste de contrôle des femmes qui est inadmissible, mais qui traduit en fait une peur, sans doute. Ouais.
Alors, ce qui est frappant, c'est que, tu le rappelles dans ton livre, les Juifs en France représentent à peine 1% de la population, donc c'est vraiment très 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 peu hein, par rapport à l'espace en fait, qu'on peut consacrer à parler notamment... du sort des personnes juives et la concentration que ça peut avoir même dans l'imaginaire collectif français. Et pourtant, ils subissent quasiment la moitié des actes racistes. Qu'est-ce que te dit l'attention qui est portée aux juifs de France au regard de ton histoire et au regard de l'analyse que tu peux faire de l'antisémitisme en France ?
Alors, c'est vrai que ça, c'est une statistique qui est vraiment saisissante. J'habite pas loin de ce studio et pas plus tard que ce week-end, je pense que c'est produit ce week-end, il y a un restaurant kasher qui a été vandalisé avec des insignes nazis du sol au plafond en bas de chez moi.
Ah oui, dans le 19e arrondissement, oui, tout à fait.
Donc, ça fait peur et à la fois, c'est vraiment un phénomène... que je voudrais qu'il soit exploré avec nuance. Ce que je trouve terrible, c'est qu'il sert souvent à faire escalader les violences. Donc, tu l'as dit tout à l'heure, grâce à l'accroissement des faits de violence antisémites, et souvent dans les discours publics, politiques ou médiatiques, mis sur le compte de l'islam. Et c'est une réalité... qui doit être abordée de façon beaucoup plus complexe. Alors, évidemment, l'histoire des Juifs et des musulmans en Afrique du Nord, qui se continue dans la France postcoloniale, amène du conflit et des haines racistes dans les deux sens. Mais c'est extrêmement malsain de mettre l'accent uniquement sur l'islam comme agent de l'antisémitisme. Ça empêche de voir toute la part d'antisémitisme qui a une longue tradition française, sans aller jusqu'au Moyen-Âge, mais qui s'est forgée rhétoriquement dans l'action française, qui se continue avec l'histoire du Rassemblement national. Enfin, quand même, la patronne, en 2017, a encore refusé de reconnaître la responsabilité de la France dans le Veldiv, qui a un recrutement blanc antisémite très virulent. Et donc, c'est très problématique de pas exposer une vision nuancée et complexe de ce qui fait l'antisémitisme. Après, pour compléter aussi l'exposé de la violence raciste, il faut aussi voir que effectivement, ce qui est très saisissant par rapport à la violence contre les Juifs, contre ce 1% de la population française, c'est qu'elle se traduit par des faits de violence physique, d'injures, de vandalisme. Et donc ça, c'est très saisissant pour l'imaginaire. Et en même temps, c'est une réalité qu'il faut aussi confronter à toute l'océan du racisme discriminatoire, des violences policières contre d'autres minorités raciales en France. Et donc, pareil, il faut ramener, je pense, à une construction du discours qui va plus dans les détails et qui confronte plus de facettes, quoi.
Et justement, dans ton livre, en racontant ton histoire personnelle, l'histoire de ta famille et le fait que tu as grandi dans une, tu l'as dit tout à l'heure, une famille juive plutôt laïque, qui était peu pratiquante, tu apportes une image que les Juifs ne sont pas un bloc monolithe et que, et ça pour toi, justement, tu dis que renoncer au pluralisme juif, c'est un acte antisémite. Et dans ton livre, tu commences par une anecdote qui t'est arrivée à New York en 2007, où une personne te juge justement dans ta judéité. Et une personne te dit, tu n'es pas vraiment juive. Et alors que tu es allée à New York pour étudier le cinéma, tu as commencé une réflexion qui a résonné dans ton histoire familiale. Et peux-tu nous donner ce contexte de ta réflexion?
Oui, et d'ailleurs ça mènera peut-être au point de départ du livre qui est un refus d'assignation en 2018-2019. Donc, adolescente, c'est encore une espèce d'anecdote qui est remontée comme ça. J'ai passé un an d'études à New York et une soirée, je me suis retrouvée dans un office de la Pâque juive Pessah. En plus, une fête qui... C'était une des rares fêtes que je connaissais à peu près par ma famille, que j'aime bien parce qu'on célèbre la sortie d'Égypte, donc un fait collectif politique de résistance, d'émancipation, qui en plus a une histoire d'universalisme, puisque l'imaginaire de la sortie d'Égypte a aussi beaucoup circulé dans l'imaginaire de la libération des esclaves noirs. Sur le territoire états-unien. Donc j'aime bien cette histoire, comment elle circule. Petite fille, la sortie d'Égypte, la mer Rouge, voilà. Je me retrouve avec des Français, des expatriés. Il faut dire que c'est le petit monde social auquel j'ai affaire, c'est des Français expatriés, des étudiants. Et comme on ne sait pas trop où aller pour voir un office de Pessah, on se retrouve dans une synagogue... orthodoxe, comme je n'en fréquente absolument pas, déjà pas beaucoup de synagogues, mais alors vraiment orthodoxe, pas du tout. Et là, on retrouve des histoires dont on a déjà parlé, qui n'ont pas du tout trait à la discrimination religieuse, mais celle des femmes. Je me retrouve à recaler, à consigner à l'arrière de la synagogue. Je ne peux pas entendre le rabbin, je ne vois rien. Donc, enfin, les femmes sont quand même très minorées dans cet environnement. Donc, je quitte l'office au milieu et je décide de pas aller au dîner rituel. Donc, c'est là que donc une Française m'a dit « Bon, bah, si tu viens pas au dîner, tu n'es pas vraiment juive. » Ce qui est un peu...
Ouais, c'est super violent.
Ouais, c'est super violent, en fait, de décider à la place de quelqu'un de son appartenance. Voilà. Oui. Hein, finalement, quand vous commencez l'émission en posant la question, vous demandez à la personne comment elle a envie de se définir. Oui. Mais là, c'était vraiment... c'était cette assignation de l'extérieur que finalement, je trouve... qui procède d'une pensée raciste. C'est-à-dire qu'on admet que quelqu'un peut décider pour quelqu'un d'autre de son appartenance identitaire.
Et justement, quand tu parles de décider pour quelqu'un d'autre, tu parles aussi de cette forme de racisme qui distribue les bons et les mauvais points aux Juifs. Et que, d'une certaine manière, quand on renonce au pluralisme qu'incarnent en fait les différents Juifs, notamment en France, c'est aussi pour toi une forme d'antisémitisme. Est-ce que tu pourrais développer sur ce point?
Oui. Ça, c'est le point de départ du livre. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment, c'était la période très intense des Gilets jaunes. Il y a eu beaucoup de faits, d'actes de vandalisme, de violences antisémites à ce moment-là. Vous vous souvenez sans doute le visage de Simone Veil qui était tagué d'une croix gammée. Il y a eu l'arbre au souvenir de Ilan Halimi qui a été scié. Il y a eu des...
Et Begelstein aussi.
Des cimetières saccagés, enfin voilà. Et comment on se sort de ça? Par notre représentation politique. Et ça m'a vraiment sidérée. Ah bah on va. Et donc après il y a eu des insultes contre Alain, par un gilet jaune contre le philosophe Alain Finkielkraut, que je tiens quand même pour le pompier pyromane en chef dans une certaine zone médiatique moyenne, on va dire, qui s'était fait traiter, je crois, mais c'était insupportable. C'était,
ouais. Je crois qu'on l'a même dit, retourne en Israël ou un truc comme ça.
Sale sioniste et, je pense avec des mots, avec un désir de mort, je ne sais plus la formule. Mais je précise tout ça parce qu'en fait, je pense que l'arsenal législatif contre de tels propos, d'une telle violence, il est déjà là. Il n'y a pas rien à ajouter. Donc, pourquoi de cela on sort avec une proposition de faire une loi pour dire que traiter quelqu'un de sioniste, ça doit être interdit?
C'est ce qu'a proposé Emmanuel Macron.
Voilà. Donc, il y a une prise en charge, une espèce de façon de supporter l'État d'Israël. En plus, l'État d'Israël d'aujourd'hui, c'est-à-dire qui est dans un moment de belliqueux et de racisme actif, qui est insupportable.
Parce qu'en fait, le fait de choisir dans tous ces mots qui ont été prononcés de criminaliser le mot sioniste, ouais. C'est d'une part considérer que les Juifs de France ont forcément à voir avec la politique israélienne et d'une certaine manière ne pas pénaliser en fait ce qui est vraiment pénalisable, à savoir, parce que le sionisme c'est une option politique, mais se dire à quelqu'un que c'est un sale juif ou le menacer de mort, de toutes les façons c'est raciste et illégal, quoi.
Absolument. Et donc ce déplacement-là, l'identification entre les Juifs et l'État d'Israël, en fait, il est produit par notre président. Et ça, je trouve ça hyper dangereux, parce que tout à l'heure, j'ai parlé de diaspora, d'expérience diasporique. J'ai parlé de non-religiosité, de lien avec l'expérience de l'étrangeté, la littérature, des choses qui sont hors territoire. Et je pense que c'est ça aussi l'expérience du judaïsme. Et cette assignation à l'État d'Israël, c'est d'une raideur et d'un danger, à mon avis, qu'il faut absolument empêcher.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Comment devenir un ou une meilleure alliée de la lutte antiraciste? Comment se confronter à ses privilèges en tant que personne blanche? Chez Binge Audio Édition, on sort Mécanique du privilège blanc, un livre d'éducation antiraciste pour proposer des outils concrets à toute personne qui souhaite se confronter à ses privilèges. Le livre est signé Estelle Depri, qui anime depuis des années la page Instagram Semblant de Rien, sur laquelle elle produit du contenu antiraciste qui permet à chacun et chacune de devenir un meilleur allié. Vous êtes déjà plus de 2000 à avoir précommandé. Grâce à vous, on a dépassé notre objectif. Il ne vous reste que quelques jours pour commander vous aussi votre exemplaire. Rendez-vous sur ulule.com/mécanique-du-privilège-blanc ou sur le compte Instagram de Binge Audio Édition.
Dans ton livre, tu déplores la promotion de l'image du judaïsme comme une religion contraignante et faire des juifs une communauté clairement bornée et aller même jusqu'à les identifier mécaniquement à l'État d'Israël. Et tu dis aussi, donc ça je trouve ça très très clair en fait, de dire que c'est une image qui revient dans l'espace public, dans nos médias, dans plein de choses et qui du coup est c'est raciste. Ce que tu dis, c'est que c'est antisémite de montrer les juifs que sous cet angle-là.
Oui, absolument. Ouais. Oui.
Et donc tu as constaté que aimer ou ne pas aimer les juifs est redevenu un positionnement stratégique au sein de la société française. Et que du coup, cette instrumentalisation, elle se fait aux dépens, au détriment des juifs, en réalité. Enfin, ce n'est pas du tout quelque
chose
qui les porte.
Oui, parce qu'on ne peut plus bouger là-dedans. Ouais, on ne peut plus bouger, on ne peut plus revendiquer le doute, le rapport à une identité beaucoup plus ouverte.
Et tu as pris un autre exemple, justement, pour rappeler la responsabilité du gouvernement, enfin de l'État, chef de l'État d'ailleurs, de cette identification entre les Juifs et Israël, pour la commémoration en fait, de la rafle du Veldiv, le fait qu'il ait invité le Premier ministre israélien.
C'est une première, oui. Ouais.
C'était une première historique et c'était encore une fois déplacé. C'est-à-dire que la rafle du Veldiv, c'est un fait de l'État français, donc c'est du racisme d'État produit par la France. Et pour commémorer un fait français, on fait venir un Premier ministre israélien comme si, en fait, il y avait un lien direct, alors même que ce qu'il faudrait faire, c'est peut-être en inviter des personnalités, mais qui sont directement liées à cette histoire de notre pays. Donc toi, tu penses que ça entretient encore l'idée que bah, juif de France, juif d'Israël, c'est la même chose, il n'y a pas forcément de différence à faire, puisque le président lui-même ne fait pas de distinction.
Oui, absolument. Donc il a, enfin, c'était quand même une évolution diplomatique qu'a choisi Emmanuel Macron. Et hors de ça, je la trouve douteuse vis-à-vis d'un événement qui exprime la violence de l'État français à un moment donné. Et aussi une violence d'État qui, tout en étant quasiment fétichisée, parce qu'on ne va pas dire que la mémoire du génocide des Juifs en France, elle est dissimulée, hein, elle est quand même très présente. Mais, en fait, elle est quand même mal racontée, mal connue.
Justement, à cet égard, je rebondis parce que là, le studio où on est situé, il est situé Villa Marcel Lodz. Je ne sais pas si tu as remarqué le nom de l'adresse quand je te l'ai envoyé. Et donc, moi, je ne savais pas qui c'était Marcel Lodz. En lisant ton livre, j'ai appris que c'était un architecte. Et il a édifié en 1931, avec Eugène Baudouin, une cité à Drancy qui s'appelle La Muette. Donc, peux-tu nous parler de... Comme en plus, tu es enseignante en Seine-Saint-Denis, donc peut-être que tu as vu cette... Enfin, tu as sûrement vu cet endroit.
Oui, plusieurs fois, oui.
Et donc, quelle est cette bâtisse et pourquoi est-elle une image manquante dans notre devoir mémoriel pour les 76 000 juifs déportés de France?
Alors ça, c'est au cœur de mon livre. Mon essai est construit comme une espèce de... une déambulation dans plusieurs lieux de vie et de mémoire, dont Belleville. Mais je parle de l'expérience que j'ai de la cité de la Muette. Expérience pour moi d'abord banlieusarde, parce qu'en fait, quand j'ai découvert la cité de la Muette, c'est quand j'ai enquêté pour mon deuxième roman, qui s'appelle Les Saisons de Louveplaine, qui raconte une émeute, mais vous verrez bien les faits réels qui l'ont inspirée, mais c'est une émeute dans une ville imaginaire de Seine-Saint-Denis en 2005. Mais j'ai décidé de situer cette émeute à Louveplaine, ville imaginaire, et pour laquelle j'ai beaucoup cherché à donner une profondeur historique à la Seine-Saint-Denis, aussi bien ses forêts, l'histoire royale, l'évolution architecturale. Et c'est comme ça, en fait. C'est au moment où j'enquêtais pour Louveplaine que je suis passée entre Drancy et Bobigny dans une cité qui s'appelle la Cité de la Muette. Et j'ai compris, là, j'ai compris que quand on dit les Juifs déportés de Drancy, ils avaient été parqués dans une cité HLM qui était créée par Marcel Lodz et consorts. Ce que cet endroit architectural était absolument pionnier à l'époque. Finalement, ça a été l'endroit, la mère de toutes les cités HLM d'Île-de-France et de France. Et que il y avait une espèce d'image manquante, comme tu dis. C'est-à-dire, quand on dit Drancy, en fait, on voit l'arrivée. Enfin, moi, c'est ça que ça produisait dans mon imaginaire.
Dans un
Je
camp.
Voyais Auschwitz.
Voilà. Ouais. Oui, c'est ça, en fait. Et en fait, on n'imagine pas que c'est une cité totalement quelconque, en fait, banale.
Totalement
qui, en
quelconque.
En plus, aujourd'hui, est habitée comme si de rien n'était, quoi.
Ouais, alors, comme si de rien n'était. Depuis 2012, il y a le mémorial.
D'accord.
Donc, il y a un musée. C'est une muséographie extrêmement exigeante,
tout à fait.
Voilà.
Oui.
Mais c'est récent. Alors, j'ai dit 2012, je ne sais pas exactement l'inauguration de ce musée mémorial. Mais 2012, je peux vous dire que c'est la première fois qu'un président de la République, François Hollande, met les pieds à la Cité de la Muette. Donc, il y a le musée mémorial en face, mais l'endroit où on a entassé les internés, dans une cité inachevée, c'est habité, c'est dissimulé dans la vie urbaine. Et je trouve que c'est très gênant, ou alors il faudrait qu'on le sache mieux. Mais pour, voilà.
C'est curieux quand même. C'est comme s'il y avait un effacement de quelque chose d'absolument tragique et inédit sur le sol français. Donc c'est bizarre en fait de faire comme si c'était une cité parmi d'autres. Même s'il y a une muséographie qui vient rappeler ce qui s'est passé. Mais même pour les habitants, je trouve que c'est C'est bizarre de laisser des gens habiter là sans vraiment avoir conscience de ce qui les a précédés.
Oui, ils savent plus ou moins. Ce qui donne un sentiment quand même très mélancolique, c'est que c'est une cité à loyer extrêmement bas. Donc, c'est pour des personnes très paupérisées, en fait, l'accès à ces logements.
Bien sûr, ouais.
Ce qui cause cet effacement, ça doit être l'opportunité de cet habitat pas cher. C'est la peur, panique du vandalisme antisémite, de la visibilité de ce lieu. Mais c'est aussi, je pense, une forme de culpabilité de l'État français qui comme dans beaucoup de postures, ou du débat public en France, où on a du mal à mettre en scène les lieux qui matérialisent des moments de violence raciste. Mais ça, je peux le mettre en regard de l'ignorance de certains de mes élèves à Bobigny. Je me rappelle une élève dont les parents sont haïtiens qui a appris en regardant un documentaire en classe que pourquoi la population à Haïti était noire. Enfin, voilà, c'est des états de conscience comme ça de l'histoire raciste en France qui sont mal connus.
Ouais, qui sont mis sous le tapis, on peut le dire, je pense. Et tu dis aussi que donc toi tu es enseignante en Seine-Saint-Denis, donc tu côtoies une réalité sociale, celle de la ségrégation territoriale, raciale et la réduction des opportunités en termes d'avenir. Tu enseignes la littérature comme outil d'émancipation. Pourtant, tu dis qu'il faut un moral d'acier pour convaincre tes élèves que l'apprentissage de l'écriture et de la parole va les aider, que ce n'est pas l'expression d'une domination d'institution officielle qui cherche à les piéger ou à les humilier. Et tu dis aussi, en mettant en regard vos expériences respectives, que vous vivez sur des rives différentes du racisme. Est-ce que tu peux raconter ce que t'as fait cette expérience en fait auprès de tes élèves, le regard que ça a peut-être modifié sur toi-même et ce que tu as découvert aussi sur leur vécu, qui sont très éloignés du tien en fait, enfin éloignés en tout cas.
Ça renvoie à ce qu'on se disait tout à l'heure sur discrimination. Et l'histoire génocidaire sur le territoire français, qui, comme ça, par bouffée, se remanifeste dans des actes de violence. Je parle aussi dans mon livre du fait que j'ai mis du temps à parler à mes élèves du fait que j'étais juive.
Parce que tu avais des craintes
Et je pense que ça raconte beaucoup sur les préjugés qui sont en place, c'est-à-dire sur le fait que... mes préjugés de leurs préjugés.
Et ça s'est passé comment ?
C'est des choses... souvent, ça se dégonfle, en fait.
Ouais.
Ça m'est arrivé de faire un cours sur l'affaire Dreyfus, et puis tout d'un coup, il y a eu une élève qui dit « J'aime pas les juifs ». Voilà. C'est horrible, hein ?
Ouais, c'est violent.
Et donc, je l'ai virée. Après, j'ai appelé sa mère, et puis... Je me suis dit, si la mère me dit, elle a raison. Je vais pleurer, quoi. Et en fait, elle était consternée. La pauvre, elle s'est fait passer un savon. C'est pas que c'est...
Mais cette fille, cette fille a su que tu étais juive à un moment ou pas du tout?
Et après, il y a une suite, parce que quand j'ai fait paraître « Je ressemble à une juive », c'était presque connexe. D'un ouvrage issu d'un atelier d'écriture avec mes élèves de Bobigny, autour d'une expo dont vous avez sans doute entendu parler, qui était l'expo Black Dolls à la Maison Rouge. On voyait des poupées noires qui étaient fabriquées par des femmes esclaves ou domestiques noires états-uniennes, et sur lesquelles mes élèves ont écrit. Et ce livre, cet ouvrage collectif, a eu une belle vie. Ils ont fait les jeunes auteurs ont fait des lectures à la Maison Rouge, à la Colonie Barré, à la Bibliothèque Municipale de Bobigny. Donc on a eu plein de moments comme ça, dont des moments qui ont suivi la parution de mon livre, de ce livre où je raconte mes préjugés sur leurs préjugés. Et un jour, j'en ai parlé avec eux. Et on était à la colonie Barré en train de se préparer. Et donc, je leur ai parlé de ce passage du livre. Et il y a une élève qui m'a dit, on vous connaît depuis 2 ans. On a regardé votre fiche Wikipédia. Ça fait depuis le début qu'on sait que vous êtes juive. On veut juste être poli, quoi. On ne vous embête pas. Voilà.
Donc, c'est drôle.
Non, mais je pense qu'il ne faut pas être... il y a aussi beaucoup de choses à rapporter aussi à ce 1%
oui.
des Juifs en France. C'est-à-dire que c'est aussi une identité, une culture, en plus avec ce danger de la caricature dont on parlait tout à l'heure, qui est très mal connue. Qui est très mal connue.
Qui est très fantasmée, en fait.
Ouais, très fantasmée, mal racontée. Je suis allée avec des élèves aussi à la Cité de la Muette. Et il y avait des représentations, même du rituel juif. Ça évoquait pas, en fait. Donc, ça n'évoquait pas
oui,
d'image.
Oui, pas familier, en fait, non. de ces pratiques voilà. culturelles.
Et donc, et en plus, j'ai été choquée parce qu'ils ont été mal reçus par rapport à certaines ignorances qu'ils avaient sur cette histoire-là.
C'est-à-dire qu'ils ont été jugés.
Ils étaient censés tout connaître. Mmh. C'est très. Enfin, donc, il y a aussi vraiment une question de raconter les choses dans la nuance, dans la complexité. Et bon, donc, c'est très manquant, ça aussi.
Ce combat, c'est à tout le monde. C'est les propos antisémites d'aujourd'hui. On est tous chrétiens, on est tous juifs, on est tous musulmans, on est tous toutes les religions. On est tous ensemble.
Alors, c'est Assa Traoré qu'on a entendu le jour de la manifestation contre les violences policières en mémoire d'Adama Traoré le 13 juin dernier sur la place de la République. Le journal Valeurs Actuelles avait rapporté une vidéo où on entendait un homme dans la manifestation dire « sale juif », me semble-t-il. Et en fait, très vite, l'accusation selon laquelle le comité Adama et ses nouveaux antiracistes, entre guillemets, étaient intrinsèquement antisémite a circulé en fait pendant plusieurs heures avant que cette vidéo où Assa Traoré, ayant connaissance de ce propos, a la condamné immédiatement sur les lieux de la manifestation est apparue. Il y a une tension aujourd'hui entre l'antiracisme qu'on dit politique et la lutte traditionnelle contre l'antisémitisme, notamment de la LICRA dont tu parles aussi dans ton livre, où ton père était engagé à l'époque d'ailleurs de la LICA, puisque c'est devenu la LICRA avec le R de racisme en 79.
Il a vécu aussi de la LICRA.
Oui, la LICRA, il a fait les deux, quoi. Voilà,
ouais,
c'est ça.
Ouais.
Mais ce R, en fait, c'est aussi une source d'interrogation, puisque la LICRA, dernièrement, après des positions qu'on peut questionner, comment tu vis ce renouveau de l'antiracisme et toutes ces suspicions en fait, qui l'affectent par rapport à l'antisémitisme de certains de ces militants?
Je le vis mal. C'est des choses. Il y a plein de moments en fait, dans la vie publique, en ce moment, où on peut prendre des cas où il y a un manque de solidarité que je considère vraiment anormal. Entre les luttes, on peut prendre en 2019, à quelques mois d'écart, novembre 2019, il y a des faits anti-musulmans très violents devant une mosquée. Il y a la folie du voile d'Hécatlon. Et il y a une manif contre le racisme anti-musulman qui a lieu. Et on ne trouve pas la LICRA, on ne trouve même pas le PS qui décide de ne pas venir.
Ouais. On a Yannick Jadot qui change d'avis en cours aussi.
Voilà. Et deux mois plus tard, quand on commémore l'assassinat de Sarah Halimi, on dirait que c'est qu'un truc de juif. Bon, voilà. Mais je prends un moment comme ça, un point du temps, mais régulièrement. Ouais. Voilà. Je pense que... on est en train de dépasser ça. Enfin, le fait que Assa Traoré, elle mette pas une heure à prendre une parole publique pour dire je désavoue absolument ce type de propos.
Mais le soupçon était là. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas retrouvé la vidéo, moi je me souviens que sur les réseaux sociaux, on a harcelé Esther Benbassa, qui est la sénatrice Europe Écologie Les Verts, qui elle-même est juive. On l'a harcelée pour qu'elle se désolidarise de cette marche à laquelle elle avait participé. Et il y a eu toute une phase comme ça où les gens se sont dit voilà, c'est une manifestation antisémite. Enfin, les gens. Certains médias, parce que c'est quand même venu de Valeurs Actuelles, qui n'est pas un média très. On va dire très, très progressiste, en étant très dans le féminisme total. Mais tu vois, il y a toujours quand même, j'ai l'impression, ce soupçon qui pèse sur les militants antiracistes, notamment ceux qui sont musulmans.
Mais attends, parce que c'est pas un soupçon, là. C'est à une stratégie qu'on a à faire. Mmh. Et c'est pour ça qu'en fait, tu fais bien de citer Valeurs Actuelles. C'est absolument diabolique. Accuser d'antisémitisme l'antiracisme... C'est diabolique, c'est une stratégie ultra efficace. Mmh. On trouve toujours des antisémites chez les antiracistes.
Mmh. Comme partout.
Donc, ça permet de s'appuyer et ensuite, c'est dévastateur. Mmh. C'est dévastateur parce qu'on est en territoire où il y a eu un génocide contre les juifs et donc c'est d'une gravité féroce. Après, ce qui est dingue, c'est que la structure de la violence raciste, de la rhétorique raciste, telle qu'elle se redéploie aujourd'hui dans les médias. Je pense à, par exemple au feuilleton, enfin non pardon, à l'épisode sur Danielle Obono dans les pages de Valeurs Actuelles où elle était mise en scène comme une esclave dans une pseudo-fiction avec des illustrations dont le graphisme était extrêmement raciste, etc. C'est aussi une forme qui mature au moment aussi de la presse antisémite. Donc c'est là que, en fait, c'est complètement pervers de chercher. Donc en fait, c'est une stratégie de division et je pense que c'est aussi à chacun d'être au rendez-vous pour vraiment refuser absolument ce type d'accusations qui sont vraiment des stratégies de destruction du mouvement antiraciste qui est en train d'avoir une nouvelle ampleur. Et donc, ça vaut vraiment la peine d'empêcher ça, quoi.
Mais est-ce que tu crois que, du coup, juste une dernière question, parce que ça m'intéresse de savoir, parce qu'il y a une déconnexion quand même avec les associations historiquement antiracistes, notamment comme la LICRA, on parlait de la LICRA à l'instant, est-ce que tu penses qu'elles vont se reconnecter à ce mouvement antiraciste renouvelé à un moment où que vraiment c'est... Parce qu'on a même l'impression qu'elles sont dans une posture d'accusation par rapport à ces organisations, en tout cas d'éloignement, et alors qu'on a plutôt envie que les gens marchent ensemble. Donc est-ce que tu penses que ça va se reconnecter à un moment?
Écoutez, je sais pas, les vieilles assos, qu'est-ce qu'il faut
sur elle.
J'ai l'impression qu'il y a une ligne politique, une ligne éthique à avoir dans l'antiracisme tel qu'il se vit là, qui est quand même extraordinaire aussi, ce qui est en train de se passer alors, dans la souffrance, puisque ça s'est redéployé suite à l'assassinat de George Floyd, c'est qu'il y a des choses qui se redistribuent, etc. Bon, avançons. Aux gens d'avancer, et puis on verra bien ce que font les plus vieux.
Bon, c'est une bonne...
Sans vouloir aussi avoir de propos...
Non, pas du tout.
Ouais, on l'a tous pensé, on n'a rien dit.
Mais invitons, voilà.
Voilà, invitons-les, adaptons-nous au rythme s'il y a vraiment une volonté de rejoindre, mais...
Oui.
Bah, c'était une bonne phrase de fin. Donc, on peut lutter contre l'antisémitisme et être antiraciste, ce n'est pas incompatible. Voilà, merci beaucoup pour cette phrase de fin, Chloé.
Merci à vous.
Merci. Donc on arrive à la fin de ce numéro de Kif Tara sur l'antiracisme et la lutte contre l'antisémitisme. Merci à Chloé Korman d'être venue nous parler de son livre « Tu ressembles à une juive » paru aux éditions Seuil.
Kif Tara est un podcast de Binge Audio réalisé aujourd'hui par Adèle Itel Elmadani à l'édition Camille Rogache et Naomi Titi. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de Kif Tara. Merci Grace.
Merci Rokhaya.
Merci Chloé.
Merci beaucoup.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.